Troisième partie, test niveau supérieur. Test 1. Texte A. La Suisse va-t-elle rejoindre l'espace Schengen ?
Aux portes de l'Europe, les Suisses sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une éventuelle adhésion aux accords de Schengen qui prévoit la libre circulation des personnes dans l'Union. Les opérations de vote ont même commencé, vous les voyez aujourd'hui dans certains cantons. Si la Suisse dit oui, comme on s'y attend, mais les sondages sont un peu plus tangents, le nom remonte, elle ne contrôlera plus les passeports aux frontières de la Confédération. Jacques-Ric Boivin et Philippe Vogel se sont rendus à Bâle.
La Suisse, en apparence du moins, est loin d'être un gruyère. Mieux vaut avoir préparé ses papiers et être prêt à ouvrir son coffre. L'entrée dans l'espace Schengen, les gardes-frontières sont pour. Leur travail changerait peu. Grâce aux marchandises, les contrôles resteraient possibles.
Un garde-frontière va d'abord demander est-ce que vous avez des marchandises à déclarer, et après, s'il y a quelque chose, un soupçon ou quelque chose qu'il faut vraiment vérifier, on va demander des documents.
Mais ce qui n'est finalement qu'un simple changement de formule met la Confédération helvétique en émoi. Ces panneaux sont destinés à faire peur. Si vous acceptez Schengen, vous ne serez plus en sécurité et vous perdrez votre travail. Des arguments démagogiques qui divisent la population. La Suisse est au centre de l'Europe. Elle appartient à l'Europe, elle doit y entrer.
Schengen a des avantages, mais dans le doute, je vote non. J'ai déjà voté par correspondance.
Nous ne pouvons pas nous barricader. Il faut que notre pays s'ouvre.
Je crois que derrière ces changements se profile l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne, et moi je ne suis pas pour.
Et c'est ainsi qu'un débat technique devient politiquement sensible. Les services de sécurité sont pourtant unanimes. L'entrée dans l'espace Schengen leur donnerait accès au système Information Schengen, une banque de données qui reliera bientôt 27 pays de l'Union. Actuellement, cet homme peut être un gangster italien en cavale s'il n'est pas recherché en Suisse. Et si Rex n'aboie pas, il passera sans encombre les frontières de l'oasis helvète.
Texte B. Crise de l'immobilier aux US. Le professeur Schiller ne mâche pas ses mots. La crise immobilière qui frappe les États-Unis est la plus grave depuis la Grande Dépression, affirme ce spécialiste, disséquant les mécanismes à l'œuvre sur un marché d'amateurs. Il regrette le manque de lucidité de nombreux acteurs et, alors que la tourmente s'étend aux places boursières, il met en garde contre ses conséquences. Le pire de la crise immobilière américaine est-il passé, selon vous? Non. Le système financier va souffrir. Les faillites personnelles vont se multiplier. Nous n'en sommes qu'au début. Nous assistons à la plus grave crise immobilière depuis la Grande Dépression de la fin des années 1920. Ses conséquences économiques ne seront sans doute pas aussi sévères, même si le risque de récession est non négligeable. Mais on va assister à une véritable destruction de valeur. Des millions de gens vont perdre leur maison. Et ce qui me chagrine, c'est que tout cela résulte de comportements parfois malhonnêtes. Le public a été entretenu dans un mythe, à savoir que le prix des logements finit toujours par remonter. On a poussé des gens à acheter des maisons surévaluées en recourant à des emprunts extrêmement complexes. N'exagérez-vous pas un peu? Ce n'est ni la première ni la dernière crise immobilière. Nous avons effectivement connu des crises à la fin des années 70 et au cours des années 80 et au tournant du siècle. Chacune a été d'une certaine manière plus forte que la précédente, plus profonde. Nous sommes en fait les victimes d'un changement de société. Les États-Unis sont devenus de plus en plus capitalistes. À la fin de la décennie 70, le Congrès a modifié les règles en encadrant le crédit des taux d'intérêt. Désormais, des taux usuraires ne sont plus réglementés. Et petit à petit, nous en sommes arrivés à la situation actuelle où des produits très sophistiqués sont proposés à des gens incapables de les comprendre. Le marché du crédit était autrefois contrôlé par les autorités locales. C'est devenu un marché national sans réel contrôle. Au début des années 2000, certains ont pris en otage les emprunteurs, profitant du niveau historiquement bas auquel étaient tombés les taux à la suite de la crise de 2001. Ils ont proposé des crédits assortis de taux complexes, de varier des propositions que les souscripteurs n'imaginaient pas. Les prêteurs savaient ce qu'ils faisaient, les emprunteurs non. Le capitalisme peut fonctionner à condition d'être régulé et que soient limités les risques d'abus.